histoire, actualité comme tous les vendredis, actualité des recherches en histoire, actualité des festivals d'histoire. Ce matin, donc, nous sommes en direct du festival L'Histoire à venir, dont la deuxième édition se tient ces jours-ci à Toulouse. Avec Anaïs Quin et Séverine Niattard, nous sommes en direct des studios de France Bleu, donc Occitanie, qui nous accueille et nous les en remercions à l'occasion de la deuxième édition du festival L'Histoire à venir, dont une des organisatrices, Claire Jude de la Rivière, maître de conférence à Toulouse, Jean Jaurès, nous expliquera l'originalité. Une des particularités, c'est la place laissée aux jeunes chercheuses et chercheurs, aux étudiants de l'Université de Toulouse, comme Michael Xompero, qui, avec les étudiants de l'association Périple, organise tout à l'heure à 11h une fiction historique, un procès de Néron, il nous en parlera. Deux jeunes chercheurs étaient présents au débat d'hier sur l'anthropophagie. Séverine Niattard nous l'expliquera dans un instant. Puis nous saisirons l'occasion de notre présence à Toulouse pour valoriser une initiative originale lancée cette année. Elle s'appelle Euchronie. C'est un agrégateur de contenu qui va moissonner dans les espaces du web des sites et des blogs d'histoire. Sébastien Poublan, ingénieur de recherche et coordinateur scientifique du site Euchronie, ainsi que Caroline Muller, professeure agrégée, docteur en histoire à l'Université de Reims et moissonneuse pour le site Euchronie, seront là pour nous en parler. Et enfin, comme chaque vendredi, c'était à la une, notre séquence du vendredi avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Rétro News. Aujourd'hui, un article du journal Le Siècle sur la fameuse promenade des cadavres du 23 février pendant la révolution de 1848, lu par Elsa Dupuis. Musique futuriste, comme on disait dans les années 70, pour pouvoir nous introduire à ce thème, l'histoire à venir, qui va être notre thème pendant toute cette émission d'aujourd'hui. Bonjour Séverine Niattard.
Bonjour.
Bonjour à vous Anaïs Quin.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bonjour à vous Claire Jude de la Rivière, merci d'être avec nous.
Merci à vous, bonjour.
Alors vous êtes une des organisatrices de ce festival, deuxième du nom, il a commencé l'année dernière. Anaïs Quin, vous allez nous expliquer donc comment se place ce festival de Toulouse, Histoire à venir, donc au milieu de l'ensemble de tous les festivals.
Oui, parce qu'il commence à y en avoir pas mal.
Oui,
n'est-ce pas ?
Il faut quand même reconnaître qu'on est assez gâté quand on est historien.
Alors, peut-être pour serrer ces festivals d'histoire qui s'accumulent en France, le plus grand, le Festival de Cannes des historiens, tel qu'on l'appelle entre nous,
ouais.
Les rendez-vous de l'histoire de Blois, tous les premiers week-end d'octobre, qui fait la part belle aux profs du secondaire, invités à rencontrer les universitaires et les dernières recherches en cours. C'est un peu la success story de l'histoire des festivals d'histoire en France, avec ses grands pontes, pas encore de tapis rouge, mais des stars, évidemment, des historiens, des lycéens, il y en avait quelques-uns qui étaient venus seuls d'ailleurs l'année dernière, un festival d'érudition et de recherche avec son gigantesque salon du livre d'histoire et une attention particulière donc à l'enseignement et à l'incorporation dans cet enseignement des derniers résultats de la recherche. C'est aussi le lieu des polémiques, on s'en souvient il y a 3 ans lors de l'invitation de Marcel Gauchet à faire la conférence inaugurale qui avait été largement couverte par la presse nationale. Toute la ville, cette ville de Château, cette ville des bords de Loire, est prise par le festival, ses cafés, ses châteaux, ses écoles du paysage et ses musées sont envahis par les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est aujourd'hui un peu victime de son succès avec ses centaines de conférences, ses queues parfois sans fin. Donc c'est un modèle et un contre-modèle.
Ouais, enfin c'est effectivement, on peut dire qu'on est privilégié parce que nous avons des coups de fil et c'est mal vu, mais effectivement pour la plupart
c'est pour
des
ça qu'il
gens.
Il faut pas en parler.
Mais si on peut le dire, tout de même il faut quand même le reconnaître.
Et donc puis, nous sommes dans octobre.
Gens, voilà, c'est en
nous
octobre.
Nous sommes en octobre. Arrive novembre et le Festival international du film d'histoire de Pessac. Mm-hmm. Donc cette fois-ci un lieu unique, le cinéma Jean Eustache, dans lequel sont proposées des séances de films d'histoire, de fiction ou de documentaire. Les télévisions qui programment du documentaire d'histoire sont très présentes, Arte, France Télévisions. Donc ça c'est un shoot de film. Mm-hmm. On passe d'une salle obscure à une autre, on mange assez peu, mm-hmm. je dois dire. Mais on voit énormément de films et on vote pour le prix du jury. Et enfin, mois de mai, nous y sommes, vient Toulouse depuis l'année dernière, l'histoire à venir, avec une attention toute particulière, et c'est là vraiment sa singularité, à effectivement l'accueil des jeunes chercheurs dans les conférences elles-mêmes, Emmanuel, vous le disiez, mais aussi à l'adresse au public. C'est-à-dire que l'intitulé des débats, Claire Jude de la Rivière, c'est aussi une invitation à replacer les historiens dans leur présent, à poser des questions qui interpellent le public, une véritable main tendue au public qui fuit un petit peu l'érudition, j'ai envie de dire gratuite, mais c'est un vilain mot, et qui nous invite à nous réarmer face au présent. Alors, pas forcément à nous rassurer, mais peut-être à mieux vivre le doute du quotidien.
Claire-Jules de la Rivière.
Oui, exactement. Le doute, je pense que pour nous, c'est essentiel. Savoir, c'est évidemment apprendre, accumuler des connaissances, et c'est aussi apprendre à douter et avoir du plaisir à douter. Donc, l'idée du festival, c'était de donner à voir la recherche, de la montrer en train de se faire, de permettre au public de la pratiquer avec les chercheurs. C'est pour ça qu'on organise aussi des ateliers ou des labos d'histoire.
Alors, c'est quoi la différence entre atelier et labo d'histoire?
Alors, l'atelier est un peu plus petit. Par exemple, on a un atelier aux archives départementales, donc pour une trentaine de personnes qui vont pouvoir ouvrir des archives avec les archivistes des archives départementales. Ou, demain, Étienne Anaïm organise au musée des Augustins une visite, d'une des très belles toiles de la Renaissance italienne possédée par le musée des Augustins. Et donc là encore, seulement 30 personnes pourront assister à cette visite. Les labos peuvent être plus grands et l'idée, c'est de faire dialoguer deux ou trois chercheurs face au public et ensuite avec le public, en montrant justement comment ils peuvent être d'accord ou pas d'accord, comment ils hésitent, comment ils travaillent. Et vous le disiez, notre objectif, c'est aussi de trouver des thématiques qui reflètent ce que nous sommes en train de faire dans nos recherches, mais de les rendre attractives, compréhensibles, ouvertes, de montrer comment elles résonnent en réalité parfaitement avec les débats contemporains.
Et donc ça signifie aussi une sorte de mise en scène, vous travaillez avec le théâtre Garonne par exemple, donc il s'agit aussi d'imaginer d'autres formats que les conférences ou les débats qui sont habituels généralement dans la façon de promouvoir les sciences humaines et l'histoire en particulier.
Exactement, parce que on le sait, dans le livre d'histoire, il y a aujourd'hui une grande recherche d'écriture. Et l'écriture, c'est une façon de restituer. Mais il y en a plein d'autres des façons de restituer. On aura d'ailleurs parmi nous Manon Bril, qui est aujourd'hui une des grandes youtubeuses en histoire, qui ont justement ces youtubeurs qui inventent.
Qui est de Toulouse.
Qui est de Toulouse et qui sera parmi nous dimanche à 13h au Théâtre Garonne. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à travers justement ces mises en scène, c'est pas seulement ludique, c'est aussi de montrer qu'il y a mille façons de raconter l'histoire, de la mettre en scène, mais aussi de la mettre en débat, de la mettre en échange. Donc ce n'est pas une simple restitution, c'est aussi en fait faire de la recherche. Comme la façon dont on écrit ou dont on dit l'histoire, c'est une forme de recherche.
Oui, alors parmi les multiples façons de montrer l'histoire, il y a donc cette association Périple, dont vous êtes un des membres, en l'occurrence Michaël Zampero, et qui organise à 11h tout à l'heure donc un procès de Néron. On va écouter une petite archive.
Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Jupiter, père de tous les dieux.
Nous t'adorons.
Et Néron, son divin fils.
C'est un cliché, Néron. Depuis près de 2000 ans, il est enferré, puni, maudit dans un cliché. On prend les trois images les plus graves, l'incendie, le massacre des premiers chrétiens et le matricide. Et à partir de ces trois dilemmes convulsifs, effrayants, il faut le dire, on a fait de Néron ce que Renan disait « la bête ». Mais en fait, l'histoire est beaucoup plus subtile et chaque empereur, chaque régime totalitaire de l'époque était souvent un bain de sang, mais aussi un bain de culture, de musique, de stratégie, d'architecture et d'art.
Une archive du film Quo Vadis de Mervyn Leroy et puis Hortense Dufour qui était auteur de Moi Néron au micro de Patrice Gélinet. C'était en 1999 sur France Inter.
Alors, Michaël Zampero, vous allez à l'heure jouer, un procès de Néron. Donc, une autre manière de faire de l'histoire, alors à la fois à travers la mise en scène et dans l'écriture, puisque vous êtes un antiquisant, historien, et c'est vous qui avez écrit cette pièce. Alors peut-être nous expliquer aussi comment cette idée est advenue.
Alors écoutez, c'est assez original puisque cette idée, elle ne vient pas de moi, elle vient de deux professeurs que j'ai eu en licence 2 d'histoire pour un lieu, l'histoire ancienne.
Ici à Toulouse ?
Ici à Toulouse, voilà. Et en fait, au lieu de nous faire passer des oraux traditionnels, vous savez, où c'est un exposé entre 20, 30, 40 minutes à 2, à 3, ils nous ont proposé, comme on travaillait sur l'histoire romaine et en particulier le Haut Empire, de retracer la vie d'un personnage important de l'histoire romaine via un procès. Le procès permettait en fait de retracer, on jugeait les faits, les gestes de chaque empereur ou d'un autre. Je cite par exemple, c'est Néron, mais il y a eu aussi Auguste, il y a eu César. Voilà, c'est par rapport à ça, on analyse les faits, on les joue, c'est-à-dire qu'on fait passer plusieurs personnages. Et au
donc
final,
vous allez porter la toge.
Effectivement, oui, bah oui. D'ailleurs, je les ai
vous
avec moi.
Vous avez vos costumes, là.
Je les ai avec moi, effectivement.
C'est ça.
Je suis pas en toge, mais oui, je les ai avec moi, oui.
En tous les cas, le fait que ce soit un personnage controversé, Michael Zampero, enfin, ambivalent, réhabilité, voilà, est-ce que ça, c'était important, justement, pour le traiter de manière fictionnelle et théâtrale?
Je pense que pour l'écrire, c'est le plus facile. Un personnage comme Néron, il est tellement... Il pose tellement de problèmes, d'une part dans l'historiographie et même dans la manière dont les Romains ont écrit l'histoire de Néron. C'est parfait. Quand on veut écrire une pièce de théâtre, par rapport à ce que dit Suétone, Tacite, voilà, évidemment, ces auteurs-là grossissent les traits, mais pour nous, quand on veut ensuite écrire une pièce, c'est vraiment excellent.
Finalement, les sources, et c'est parfois un manque de sources d'ailleurs pour les historiens, hein, pour faire la part de choses, pour vous, à l'inverse, elle est
oui, effectivement,
plutôt enrichissante.
Sur quoi les historiens s'arrachent les cheveux pour essayer de déterminer la véracité de certaines sources. Nous, quand on écrit les procès, ça nous arrange, puisque plus les traits sont gros, mieux cela peut être rendu au théâtre.
Alors vous dites, quand on écrit les procès, c'est que d'une certaine façon, c'est une pratique professionnelle, pourrait-on dire, de jeunes étudiants en histoire.
Bah, en fait, c'est surtout une véritable passion. En fait.
Ouais.
C'est une véritable passion, et c'est vrai que c'est... Voilà, à la base, c'était, comme je l'ai dit, un oral, et puis on a eu l'occasion ensuite de pouvoir le rejouer dans d'autres cadres, notamment la Semaine de l'Antiquité, qui est une semaine nationale
c'était
dédiée.
C'était en mars dernier, ça.
En mars dernier, effectivement.
Et donc, cette association Périple, dont vous êtes membre et qui organise tout ça, c'est une association d'étudiants de l'Université de Toulouse, qui organisait au départ, si ça s'appelait Périple, c'était des grands voyages autour de la Méditerranée. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent parce que c'est assez agréable de pouvoir partir en groupe.
C'est pas cher.
Que ça soit en Grèce, en Italie ou en Croatie, comme cette année. Mais là, en l'occurrence, elle a une autre fonction, justement, avec ces procès fictionnels que vous mettez en scène.
Oui, effectivement. En fait, les voyages, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. Ça nous permet d'attirer les gens pour les faire venir, en fait, parce que sinon, les gens ne s'intéressent pas forcément à la période quelle antiquité. Hein.
Ah, mais et c'est
en
ça.
En particulier pour le voyage, pour voyager. Et au final, quand on réussit à leur
montrer... C'est un bon d'achat, quoi.
C'est ça. On leur montre le patrimoine culturel et ensuite, ils arrivent à découvrir finalement ce que c'est la période, le patrimoine.
Et vous êtes combien dans ce procès de Néron qu'on va pouvoir voir tout à l'heure à 11h ici à Toulouse au Théâtre
Garonne? Nous sommes 7 au Théâtre Garonne, voilà, à 11h.
Et donc, vous avez l'intention, vous allez passer les concours d'enseignement, je crois,
vous-même.
Vous les avez passés, Michael Zampero. Donc, vous avez l'intention de continuer justement dans cette voie, c'est-à-dire, est-ce que c'est, disons, temporaire, ce travail autour des procès antiques reconstitués par vous, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous remettriez chaque année?
Une collection.
En fait, ça fait 4 ans qu'on le fait déjà, c'est le 4e qu'on fait. Alors c'est la première fois que, d'une part, on le joue au Théâtre Garonne, donc c'est vraiment, on est upgradé, comme on dit en anglais, hein. Et donc voilà, mais oui, on va, si tout le monde est d'accord, si les acteurs avec qui je travaille sont d'accord.
Mes acteurs, vous parlez déjà
des acteurs,
mais
oui,
c'est ça.
Je les ai un peu forcés à venir, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'étaient pas trop d'accord, mais bon, ils ont fini par venir, donc c'est très agréable.
Claire-Jude de la Rivière, quand on disait tout à l'heure que c'était la particularité justement de raconter autrement l'histoire, ça fait partie justement des autres modes de récit historique.
Oui, ça fait partie effectivement de façon de restituer, et puis c'est aussi pour nous très important d'avoir la participation des étudiants. Il faut dire que ce festival a vraiment été organisé en collaboration avec l'université et avec les étudiants qui nous accompagnent depuis un an, qui font partie de l'équipe des bénévoles, qui sont dans le public, qui participent aux discussions, et pour nous c'est essentiel.
Oui, c'est important quand même d'être dans une grande ville universitaire, même si les grandes villes universitaires ces temps-ci sont un peu troublées par les mouvements universitaires. C'est important d'être dans une grande ville universitaire pour s'appuyer sur cette masse d'étudiants et promouvoir un tel festival ?
C'est essentiel, c'était vraiment le public aussi que nous visions. Nous visions un public large, des gens qui sont habitués des festivals, des gens qui sont habitués à venir au débat de la librairie Ombre Blanche, mais aussi justement peut-être des étudiants qui n'avaient pas cette habitude, qui n'avaient pas ces usages. Et pour nous, trouver des formats différents, c'est aussi s'adapter à ce qu'ils ont envie d'entendre.
Michael Dizon-Perrot, on va vous laisser repartir pour diriger vos comédiens et on ira vous voir d'ici une petite heure.
À
11h, donc au Théâtre Garonne, pour ceux qui se trouvent à Toulouse aujourd'hui. C'est de 11h à 12h30 à l'atelier 1, donc au Théâtre Garonne. Ils connaissent bien puisqu'ils sont de Toulouse.
Io ho ucciso mio padre, mangiato carne umana e tremo di gioia. Ho ucciso mio padre, mangiato carne umana, sto tremando di gioia.
Un extrait de Porcherie de Pier Paolo Pasolini avec la voix de Pierre Clémenti. J'ai tué mon père, j'ai mangé de la chair humaine et vibre de joie. Donc avec en particulier aussi un mixage avec le son du film Cannibal Holocaust pour évoquer la conférence que vous êtes allé voir hier, Séverine Yatard, qui était consacrée à l'anthropophagie. Nous en avons déjà parlé dans une série d'émissions il y a peu de temps sur la viande, mais aussi vous étiez intervenu vous-même donc à propos du fameux tableau du radeau de la Méduse, effectivement, où cette question de l'anthropophagie a été un lieu de débat, un moment de débat de la société française des années 1830.
En fait, c'est toujours un lieu de débat, c'est toujours l'anthropophagie. Effectivement, je me suis rendue hier à un labo d'histoire qui se tenait dans cette magnifique bibliothèque d'études méridionales de Toulouse, toute de boiseries et de briques rouges, pour assister donc à ce dialogue entre historiens, anthropologues, archéologues et hispanisants sur la notion donc d'anthropophagie et ou de cannibalisme. Alors, c'est Sophie Duluc, spécialiste de l'Afrique coloniale, qui a introduit cet atelier pour noter déjà combien cet objet se dérobe et échappe en fait au regard même des sciences sociales, mais un objet qui évidemment fascine hein, de tout temps et qui semble davantage relever de l'histoire des représentations plutôt que de pratiques réelles peut-être. Le cannibalisme, qui est donc l'action de consommer de la chair humaine, la mendication de l'homme par l'homme, et donc à appréhender dans sa globalité anthropologique, réelle et imaginaire. Il s'agit donc d'étudier les traces du cannibalisme à travers des ossements, des récits mythiques, des récits d'explorateurs, des observations anciennes ou des représentations picturales, analyser les usages politiques aussi qui en ont été faits, notamment en contexte colonial, et puis considérer la notion à travers ses multiples champs de signification comme l'amour, la haine, le rejet, la servitude. On a entendu dans l'archive « J'ai mangé mon père hein, », par exemple, voilà une interprétation psychanalytique plutôt du cannibalisme. Bon, en tout état de cause, depuis le XVIe siècle en Occident, cette question semble représenter un marqueur de civilisation. Le dévoreur revêt le pire visage de l'humanité. Il est l'incarnation du barbare, de l'altérité la plus totale. Alors, il y avait Nicolas Cambon, jeune doctorant en histoire, qui travaille sur l'anthropophagie à travers les discours scientifiques du XIXe siècle. Ce XIXe siècle qui poursuit sa quête de voyage à la suite de Cook ou Bougainville et qui entame une exploration systématique du continent africain à partir des années 1860, commence alors à s'interroger sur ce phénomène et à se demander, avec les débuts de l'archéologie, si nos ancêtres n'auraient pas pu être des cannibales. D'autant que Darwin, avec son Origine des espèces, suggère justement qu'il y aurait sans doute des résidus d'inhumanité chez l'humain. Alors Nicolas Cambon explore les représentations et les controverses que suscite l'existence du cannibalisme au XIXe siècle, en notant que les informations proprement dites sur la réalité de ce phénomène, exogène et lointain bien sûr, sont quand même pour la plupart biaisées. Pourquoi ? Parce que les anthropologues de l'époque ne se déplacent guère. Ce sont des anthropologues de cabinet qui travaillent sur des sources comme celles des récits d'explorateurs, de voyages richissimes, de colons ou de missionnaires. De toute évidence, cependant, dans cette société qui se modernise en s'industrialisant à grands pas, le sujet préoccupe et le débat, finalement, se fige sur les causes du phénomène. Sont-elles alimentaires et nutritionnelles ou sont-elles d'origine cultuelle et la question n'est pas du tout résolue à la fin du 19e siècle et encore aujourd'hui, j'y reviendrai avec l'archéologie. Thomas Brignon, pour sa part, jeune doctorant en études hispaniques, étudie les Tupi-Guarani, ces Amérindiens de la côte brésilienne réputés pour leur pratique du cannibalisme. Ceux qui sont rentrés en contact avec eux au XVIe siècle ont presque été systématiquement cannibalisés, à l'exception peut-être de Hans Tuden, arquebusier allemand capturé après un naufrage qui réussit à s'enfuir et fait à son tour le récit de sa captivité. Alors ce Hans Tuden a écrit ce récit, a donc laissé des sources, et il raconte comment lui ou d'autres captifs sont alors amenés au village, accueillis par les femmes, adoptés par la communauté. Certains d'entre eux peuvent se marier, avoir des enfants, rester ici au village pendant des mois, des années, même si leur destin est de toute façon irréversible. Le moment venu, tout le village est convié, le tueur est paré de plumes, une logomachie se met en place et le captif est déshumanisé parce que l'on doit toujours déshumaniser celui qu'on mange. Ce dernier doit promettre qu'il sera vengé, on le tue, lui, sa famille, il est dépecé. Chaque partie de son corps est distribuée à tous les membres de la communauté, à l'exception du bourreau. Plusieurs interprétations de ce rituel se sont succédées autour notamment de cette philosophie de la vengeance. Que signifie ingérer un ennemi en le mangeant ? La pratique ne sert-elle pas d'abord à se penser soi-même ? Comment éviter la vengeance ou au contraire la provoquer ? Si plusieurs religions ont été confrontées à ce phénomène ultérieurement, qu'en est-il ? Des anthropologues du XXe siècle qui vont aller étudier justement cette problématique de l'anthropophagie et du cannibalisme et d'où provient finalement l'euphémisation de ces pratiques après coup. Et enfin, Sandrine Costamagno, archéologue, nous a présenté la manière dont les archéologues travaillent sur cette problématique, mais aussi les divergences finalement qu'il y avait au sein même de l'archéologie concernant ces interprétations entre ceux qui pensent qu'effectivement les causes sont avant tout alimentaires et nutritionnelles et ceux qui pensent qu'ils sont plutôt d'origine culturelle. Et elle prône finalement un travail en lien avec les anthropologues, évidemment, qui pourraient aider à la recherche en archéologie.
Oui, merci donc Séverine Yattard d'être venue nous présenter cette conférence, ce labo d'histoire. Donc,
Ça démarrait
le festival. C'était Sophie Duluc, Thomas Brignon, Nicolas Cambon et Sandrine Costamagno qui parlaient de l'anthropophage avec un sous-titre humain trop humain, parce qu'on n'a pas encore dit avec vous, Claire Judith de la Rivière, que le thème de cette année, c'est humain non humain.
Voilà. Chaque année, on a une thématique centrale et l'idée ici, c'est de débattre des frontières de l'humain. Donc, on a proposé cette thématique qui est en fait centrale dans les sciences sociales aujourd'hui, en histoire, mais plus généralement dans les sciences sociales, pour essayer justement de montrer tout l'intérêt au public en travaillant sur les relations que les humains ont avec la machine, les animaux, l'intelligence artificielle, les divinités, par exemple.
Oui, et il faut dire effectivement que ça n'est pas qu'un festival d'histoire, puisque vous travaillez avec des labos et avec des membres de l'université qui appartiennent à d'autres disciplines que l'histoire ici même. Pas simplement les sciences humaines à Toulouse, mais aussi les scientifiques. Il y a des scientifiques qui participent, scientifiques dits de sciences dures, qui participent à ce festival, donc autour du humain, non humain, à l'histoire à venir.
Oui, c'est une richesse de Toulouse. Hein. C'est une grande université. Il y a effectivement des grands laboratoires de recherche. Et donc l'idée, c'était de faire dialoguer les historiens avec ces spécialistes de robotique, de neurosciences, de médecine, de biologie, pour montrer justement que l'histoire et la profondeur historique, en dialoguant avec ces disciplines, peut apporter aussi des réponses. Nous ne sommes pas seulement une science annexe qui vient pour rappeler que dans le passé, les choses existaient. Nous sommes là aussi pour montrer, donner une dimension, une profondeur historique, apporter nos clés de réflexion, nos clés d'analyse. Et justement, ce dialogue est très fertile.
C'est pour ça qu'hier, une des conférences de la première journée de ce festival d'Histoire à venir était consacrée à un dialogue entre un historien et archéologue, François-Xavier Fauvel, et un scientifique, Jean-Claude Amezen. Sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de 9h31, évidemment. Sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire et donc nous sommes à Toulouse depuis les studios de Radio France, France Bleu Occitanie, qui nous accueille à l'occasion du festival L'Histoire à venir, deuxième partie de cette émission avec vous Anaïs Quin et nos autres invités. Donc cette question qui était évoquée, de savoir cette multiplicité de de format, de façon de raconter l'histoire, nous a amené à réfléchir à un site qui s'appelle Euchronie, qui vient d'être lancé.
Voilà, et parler d'un site internet sans être devant, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc ce matin, j'ai cliqué sur l'onglet « Moisson du jour » du site Euchronie, Sébastien Poublan. Et j'y ai trouvé les derniers posts de ce site, donc qui évoque des sujets comme conduit-on du mauvais côté, qui revient sur une impératrice de Habsbourg oubliée, décisive dans la politique internationale du 19e siècle, qui revient sur la guerre de Vendée également, difficile de se débarrasser peut-être de ce type de sujet-là, on y reviendra ensemble. Un homme voleur qui a la particularité d'être un homme homard, donc une histoire à la fois du vol et du handicap. Les camps nazis, en l'occurrence celui de Ravensbrück, la Joconde serait-elle un homme? Que fait-on à la Saint-Patrick? L'histoire des implants mammaires, le tourisme interastral. Voilà, donc on voit bien qu'on est...
C'est varié.
C'est varié.
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est varié. Bonjour Sébastien Poublan.
Il
n'y
a pas de tropisme de l'ultra-contemporain non plus, ça il faut le saluer peut-être. Ouais.
Et bonjour à vous Caroline Muller.
Bonjour.
Alors, donc Sébastien Poublan, vous êtes ingénieur de recherche et vous êtes coordinateur scientifique de ce site Euchronie. On en avait parlé bien avant qu'il ne soit mis en ligne, il y a à peu près 2 ans je crois avec vous, fait, Sébastien oui. Poublan. Là, depuis le mois de septembre, octobre.
Depuis octobre.
Octobre, il est mis en ligne, donc c'est un site, on peut y aller voir. D'ailleurs, on engage tous ceux qui nous écoutent à aller y voir tout de suite. Et c'est un agrégateur de contenus. On a bien compris que ces contenus sont très variés. Vous allez les chercher où, ces contenus, Sébastien Poublan?
Alors, effectivement, c'est un agrégateur de contenus. C'est une équipe, en fait, qui est coordonnée par moi-même, Rémi Besson et Alexis Gire. Et un certain nombre de moissonneurs, 20 à l'heure actuelle, dont Caroline Muller, qui est ici présente. Et on est parti d'un constat, c'est qu'il y avait une production de contenu sur le passé qui était auto-publiée en ligne, sur différents types de formats, des blogs, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de photos. Et on s'est dit que ce serait intéressant de les analyser. Donc on a élaboré un corpus. À l'heure actuelle, il y a 123 sources dedans.
123 sites, pourrait-on dire. Enfin, alors, ce ne sont pas des sites, ce sont des blogs. Oui, c'est ça.
En fait, on appelle ça des sources. Parce des que sources. Du coup, on ne peut pas le réduire qu'à du blog, qu'à de l'écrit. L'idée, ouais. C'est vraiment de montrer la pluralité des médias, la pluralité des formats pour lesquels on fait de la transmission sur du passé. Donc on a ce corpus, chaque membre du corpus, enfin de l'équipe des moissonneurs va faire sa veille, et lorsque l'une des personnes qui tient cette source publie quelque chose, on vérifie que ça rentre dans les critères scientifiques et on l'agrège directement dans Euchronie.
Alors j'étais surpris parce qu'en lisant votre charte, votre présentation, le fameux « Qui sommes-nous » que l'on met généralement en ouverture de tous les sites que l'on crée, vous expliquez que vous publiez du contenu humaniste. Alors, qu'est-ce que le contenu humaniste en histoire? Ça, c'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous?
Alors, le contenu humaniste, c'est l'aboutissement de discussions pour savoir quel type de contenu on voulait valoriser sur Euchronie.
Donc, valoriser, ça veut dire aller chercher au fond du web des sites ou des blogs qui ne sont pas forcément très connus, pas très remarqués, avec des gens qui sont des spécialistes, qui sont ces fameux moissonneurs dont on parlera tout à l'heure avec Caroline Muller, et qui vont aller les chercher très loin, là où ils n'ont pas beaucoup d'audience, où vous allez les faire remonter pour leur donner d'audience.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et la question qui s'était posée à ce moment-là, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de certains types de contenus de type produit par la prétriosphère ou la fachosphère, puisque ce sont des contenus qui sont des recherches historiques, enfin, recherches sur le passé auto-publiées. Et dans la mesure où on fait une valorisation de ces contenus, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire de cela?
C'est-à-dire que vous ne les écartez pas d'emblée?
On les a écartés parce qu'ils ne sont pas publiés dans cette perspective justement humaniste. L'idée, c'est plutôt faire référence au progrès, faire diffusion des savoirs, mais sans visée politique derrière.
Alors donc ces savoirs, ils sont multiples. Vous allez les chercher donc dans des lieux autoproduits. On sait que il y a maintenant des carnets comme les carnets hypothèses que on peut conseiller d'aller voir à tous nos auditeurs qui sont des carnets de recherche sur lesquels de recherche évolutive. Vous avez vous-même mené Caroline Muller. Bonjour.
Bonjour.
Recherches, et pendant votre thèse, vous avez consacré votre thèse à la direction de conscience au 19e siècle, une thèse tout à fait remarquable qu'on peut saluer, vous étiez venu pour nous en parler il y a quelques temps, dans la fabrique de l'histoire, sur la direction de conscience au 19e siècle, et vous mettiez d'une certaine façon, c'était aussi une sorte de journal de bord, c'était aussi un journal de vos errances de recherche, de vos hésitations, de vos doutes, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Claire Jude de la Rivière de la question du doute en histoire. Ce sont des endroits où les historiens, en train de faire un travail de recherche, peuvent dire que ils sont dans une impasse, ils ne savent pas où aller, les sources qu'ils ont ne correspondent pas à leurs recherches, etc. Et c'est ce que vous faisiez sur votre carnet hypothèse qui est introduit, qui est une des sources de Crony, c'est ça ?
Oui, effectivement, mon carnet donc qui s'appelle Acquis de conscience, qui est un carnet hypothèse, est moissonné par Crony. Alors c'est pas moi qui moissonne mon propre carnet.
On a compris que voilà. Et moissonner, ça signifie quoi ?
Alors moissonner, ça signifie avoir identifié un certain nombre de contenus, donc que ce soit vidéo, site internet, et puis surveiller les nouvelles productions qui sortent sur ces carnets, etc. Et ensuite les intégrer au contenu que Anaïs Quin a évoqué tout à l'heure. Et puis ça veut aussi dire de temps à autre, quand on a un coup de cœur pour un billet ou un contenu qui nous semble particulièrement intéressant,
l'éditorialiser.
Voilà, et le valoriser, c'est-à-dire le mettre en une du site et faire une communication autour pour pouvoir le partager au plus grand nombre.
Anaïs Quin.
Ce que je trouve particulièrement singulier dans ce qu'on peut explorer grâce à cet agrégateur, c'est ce sont des essais, bien souvent, mais des essais qui, effectivement, qui doutent, mais surtout de la recherche en cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence d'une recherche achevée, de la clôture d'un corpus, pour que celui-ci soit exploité ou évoqué, ou que même l'historien se permette d'en parler. Et ça, c'est encore assez rare.
Sébastien Poulain.
Alors oui, tout à fait, et c'est peut-être aussi une des singularités du projet. Les producteurs de contenu ne sont pas tous des historiens de profession, bien au contraire. Les productions sont très variées. On peut avoir des personnes, des chercheurs comme Patrick Pécat et le projet Photo Normandie qui vise à redocumenter les photos de la bataille du Bocage, mais des blogueurs en fait comme Christine Mirepoix à la ville de Mirepoix qui documente en fait la ville du village.
Qui récemment a fait l'histoire d'un immeuble.
Voilà,
de
tout à fait.
Le numéro 36, je crois.
C'est ça.
La rue
vous
des...
savez mieux que moi pour le coup. mais. C'est sans doute la particularité en fait de ce mode de production, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des articles scientifiques avec des notes de bas de page, un appareil critique. Ce sont des recherches, l'envie de le partager. Et nous, ce qui nous intéressait justement dans cette agrégation, dans cette mise en regard finalement de contenu entre des professionnels et des non-professionnels, c'était de voir quels étaient les thèmes, comment est-ce que se les appropriaient et comment est-ce qu'ils pouvaient rentrer en discussion les uns les autres.
Et quels sont les tons d'ailleurs aussi employés par tous ces producteurs de contenu, on a des choses très très différentes. De hey « mec, aujourd'hui, je vais te parler de telle chose ».
Oui, ça c'est façon youtubeur souvent.
Jusqu'à quelqu'un qui se présente de manière très, très, très pudique en disant qu'il ou qu'elle va se permettre de contribuer à l'histoire de telle chose sur la toile.
Exactement, ça pose des questions liées à la légitimité en fait, de partager des contenus, aux modalités de ce partage. L'humour Twitter, l'humour Facebook sont par exemple très fortement repris. Et l'article sur la guerre de Vendée dont vous parliez tout à l'heure, qui fait usage d'humour sur un sujet quand même assez sensible, n'est pas sans provoquer des réactions.
Et surtout obsessionnelles.
Et obsessionnelles, n'est pas sans provoquer des réactions, notamment sur les réseaux sociaux, on l'a vu sur Facebook hier.
Alors, Caroline Muller, vous êtes entrée il y a quelque temps dans l'équipe de ces moissonneurs du site Eucronie. Je dis pour nos auditeurs que ça s'écrit Euchronie, donc qu'ils aillent voir sur le site. Vous moissonnez quoi, là, par exemple, ces temps-ci ? Vous avez moissonné quoi qui vous a intéressé, qui a titillé votre curiosité ?
Alors effectivement, moi je suis rentrée dans le projet il y a à peu près un mois, donc je suis pas une moissonneuse très très expérimentée. En fait, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans le projet, c'est que quand un moissonneur intègre l'équipe, il peut choisir les sites ou les contenus qu'il veut mettre en avant. Donc moi par exemple, je moissonne un carnet peut-être que j'aime beaucoup qui s'appelle « Publier une correspondance ». Mmh. Donc il s'interroge sur ce que c'est qu'écrire du courrier au 19e siècle. Mais j'aime aussi beaucoup tous les contenus qui vont faire un pont direct entre l'histoire et le présent. Donc par exemple, le carnet anti-K-pop qui étudie les références à l'Antiquité dans le présent. Donc là, la dernière une, par exemple, que j'ai placée donc, sur Eucronie, une des dernières, c'était la manière dont Beyoncé, dans son concert à Coachella, a réintégré tout un tas de références à l'Égypte ancienne. Donc ça, c'est des contenus qui me plaisent beaucoup, en fait. Comment, à partir de... d'un concert qui a priori rien à voir avec l'histoire, en fait, les gens font leur miel avec tout un tas de références anciennes.
Claire-Jude de la Rivière, puisque nous sommes au Festival Histoire à venir, on se dit tout de même qu'un festival comme celui-ci, comme d'ailleurs Blois ou des festivals comme celui de Genève, qui avait il y a déjà 2 ans évoqué la question de la façon dont on écrit l'histoire sur le web, avec des ateliers Wikipédia, la façon dont on peut amender et abonder des fiches Wikipédia dans le domaine historique, ça a été profondément transformé, la façon dont on envisage justement l'histoire, par la participation d'acteurs qui ne sont pas des universitaires à l'écriture de l'histoire sur le web.
Oui, c'est vrai que ça a considérablement ouvert en fait le champ des possibles en termes de production, même si en réalité cette discussion entre historiens professionnels et non professionnels, elle existe depuis très longtemps. Et effectivement, les universitaires ont toujours été, peut-être pas tous, mais beaucoup sont très attentifs justement à un dialogue constant avec en particulier des passionnés d'histoire qui savent et qui ont effectivement l'habilité à rassembler énormément de documents. Et ce que pose le web, évidemment, c'est que l'audience peut être différente, elle peut être plus ample, ce qui signifie aussi que nous, dans nos cours aujourd'hui, on se doit d'enseigner ce qu'est Wikipédia, comment on peut l'utiliser, comment les étudiants peuvent participer ou l'utiliser. On n'est plus dans le simple rejet, Wikipédia, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est une vraie encyclopédie en ligne aujourd'hui.
Oui, et puis ça oblige tout de même à une réécriture de la façon dont on parle d'histoire, parce que tout compte fait, vous citiez Manon Bril, on peut citer Benjamin Briot, alias Nota Bene et d'autres, ils ont 400 000, 500 000 vues pour chacune des vidéos qu'ils peuvent poster. Effectivement, c'est beaucoup plus que n'importe quel historien qui intervient dans les médias, y compris à la Fabrique de l'Histoire ou sur toutes les antennes rassemblées de Radio France.
Et je pense que pour nous, c'est un défi, on en discutait récemment avec des collègues. Le défi pour nous, universitaires, ça serait de trouver effectivement comment utiliser ces formats, comme nous on l'entend, c'est-à-dire pas nécessairement tels qu'effectivement ils sont utilisés aujourd'hui. Et en particulier, on se disait que là où il reste quelque chose à faire selon nous, justement, c'est sur cette question de l'administration de la preuve. Puisque ce qui définit l'histoire universitaire, c'est cette question, Sébastien citait les notes de bas de page, c'est nos recherches, elles sont fondées sur des documents. Et ce qui fait la spécificité de notre travail, c'est que ce qu'on dit, on le prouve, c'est-à-dire qu'on l'appuie sur des documents. Ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité absolue, mais la vérité qu'on propose, on la construit sur un travail...
au moins temporaire pendant le moment où on reviendra la produire.
De démonstration. Donc je crois que ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à s'emparer, par exemple, des vidéos sur YouTube pour montrer ce travail de démonstration, non pas seulement pour donner des connaissances, parce que ça, effectivement, il y en a qui le font très bien, mais pour montrer comment on fait de la recherche et comment on construit une démonstration.
Sébastien Poublan.
Là-dessus, je tiens à préciser que c'est le travail que l'on mène déjà avec Manon Bril dans le cadre du magazine Mondes Sociaux.
Alors, il faut préciser que Mondes Sociaux est un magazine donc issu aussi de l'Université de Toulouse, qui prouve qu'il y a quand même une grosse production autour de cette question-là, et que Manon Bril, à la fois, mène son travail de youtubeuse d'un côté, mais aussi popularise des articles donc de recherche par la vidéo, et elle tente en quelques minutes de ramasser le contenu d'un article scientifique et de le populariser auprès d'un public beaucoup plus large que celui qu'il aurait eu, cet article scientifique, en restant dans sa revue papier ou même dans sa revue sur le net.
C'est exactement ça, et du coup, vous m'avez couper l'arbre sous le pied. ceci dit, ce que l'on observe, nous, du coup, à Mondes Sociaux, c'est qu'il y a 2 publics différents pour Manon Bril. Il va y avoir le public de sa chaîne, un public plutôt jeune, et le public qu'elle va mettre sur Avide de Recherche, qui est la déclinaison vidéo de Mondes Sociaux.
Avide de Recherche.
Voilà, et qui n'est pas le même public. Et du coup, ça pose aussi la question de l'administration de la preuve. C'est clair, tu as tout à fait raison. Comment est-ce qu'on peut le transmettre? Et comment, en fait, celui-ci se l'approprie?
Anaïs Quin.
Oui, moi je trouve, alors le site est encore un peu jeune, mais c'est quand même un poste d'observation assez incroyable des tendances aussi. Alors pour le moment, ce qui caractérise peut-être d'ailleurs Uchronie, c'est que on ne retrouve pas les obsessions qu'a priori on peut serrer très vite sur le net lorsqu'on on tape des thèmes comme ça. Évidemment, on parlait de la Vendée tout à l'heure, c'est un bon exemple, c'est-à-dire des historiens qui se sont emparés de la question pour déjouer le piège de la question du génocide vendéen, et puis cette sphère finalement virtuelle qui résiste à la proposition historienne absolument, et qui réinvente tous les jours une polémique autour de ce sujet-là. Et grâce à Uchronie, à la fois on voit quand même persister ces obsessions et ces questions, avec la nécessité évidemment de continuer à y répondre, même si on estime du point de vue peut-être des historiens que c'est fait, que le travail est fait, mais de continuer peut-être à proposer toutes sortes de pistes qui soient à l'image de la diversité aussi de la recherche en ce moment.
Caroline Muller.
Oui, c'est une des choses très importantes à mon avis dans tous ces contenus, ces carnets, etc., c'est qu'on a un petit peu les coulisses de l'élaboration de ces réflexions, même sur des sujets qu'a priori parfois on connaît déjà. Avoir la trajectoire de la recherche, parfois c'est tout aussi important que d'avoir son résultat.
Oui, c'est-à-dire, c'est le processus. Qu'est-ce qu'un processus de recherche ?
C'est les coulisses, c'est le processus, et dans une période quand même où on a vraiment besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est que la critique de l'information, la construction de l'information, c'est particulièrement important. Avec les étudiants, par exemple, ça fonctionne très bien de prendre un billet de blog ou une vidéo et de faire, comme le disait Claire Jude, de la déconstruction et essayer de voir sur quelle rhétorique ça repose, qu'est-ce que c'est qu'une preuve. Et je crois que tous les carnets et contenus de chronie, enfin en tout cas, on a une attention à ça, à montrer la recherche en train de se faire.
Oui, et on a effectivement, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on a accordé le droit de vote aux femmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de montrer combien le combat qui a précédé de toutes les féministes de la première vague, par exemple, a préparé le terrain pour que le général de Gaulle finisse par accéder à leur demande, alors que ça faisait maintenant plus de 50 ans que ça existait. C'est vrai que c'est cette question-là, cette question de comment le processus historique se met en place, comment le processus de recherche se met en place, et que on n'est pas simplement un résultat, une date, un fait, mais tout ce qui précède, en l'occurrence Sébastien Poublanc.
Oui, c'est exactement ça, c'est ce que tu viens de dire, Caroline. Le blog est vraiment l'infusoire des savoirs, la manière de produire une recherche aboutie, mais ce n'est pas la recherche aboutie. Et ce qui est intéressant, justement, on parlait des marronniers tout à l'heure, c'est que, donc, Uchronie, il y a un côté...
Le marronnier, les sujets qui reviennent...
oui, voilà. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le terme journalistique, le marronnier, c'est le sujet qui revient chaque année, généralement.
Alors, Uchronie, il y a deux parties. Il y a la plateforme, celle qui est sur uchronie.org, où on rend compte d'un contenu qu'on va éditorialiser, que l'on va enrichir de métadonnées. Et puis après, il y a le projet de recherche derrière, c'est-à-dire comment, sur quoi est-ce qu'on travaille, quelles sont les productions de savoir. Et là-dessus, on se rend bien compte en fait que tout ce qu'on voit dans la presse, que ce soit audio, vidéo, enfin télévision ou papier, eh bien, c'est aux antipodes de ce que produisent finalement nos producteurs de contenu.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on pourrait s'attendre à trouver une surreprésentation de têtes couronnées ou d'histoires secrètes ou ce genre de choses. Et finalement, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que c'est pas le cas. C'est le local, même voire le très local. Ou alors des événements culturels. La rubrique culture est la quatrième la plus remplie de chronies. À le lire, on n'en a pas l'impression, mais finalement, quand on regarde un peu dans le détail, c'est le cas. On pourrait penser que le contemporain serait surreprésenté. En réalité, l'époque moderne est aussi très, très fortement présente.
Mais d'ailleurs, c'est une question qui s'adresse à vous trois. Comment faire pour à la fois enseigner, continuer à être chercheur, continuer à s'intéresser effectivement au processus pédagogique et se proposer ce type de moissonnage sur Internet qui est quand même une mission sans fin lorsqu'on considère ces massifs de sites qui s'intéressent à l'histoire d'une manière ou d'une autre et auxquels il faut s'affronter, qu'on choisisse de les exposer ou pas d'une certaine façon.
Alors, Sébastien Poublanc, Caroline Muller et Claire Jude de la Rivière.
Alors, je dirais que c'est un peu la quadrature du cercle. on essaie de lier à la fois la pratique, c'est-à-dire Uchronie, le transmettre dans les cours et travailler en commun avec d'autres personnes en France et à l'étranger.
Caroline Muller.
Oui, et puis l'autre aspect, à mon avis aussi, c'est de considérer que ça fait partie du travail de l'historien et que c'est pas une sorte d'à côté ou de loisir. Enfin, transmettre aussi ces formes-là, c'est... À mon avis, ça fait partie intégrante de nos tâches quotidiennes.
Et se mettre sur le dos un festival d'histoire naissant, Clergy de la Rivière, ça veut dire aussi prendre des vacances après, j'imagine, mais que pendant ce temps-là, il faut effectivement être fortement mobilisé avec la librairie Montbeau-Blanche, avec le théâtre Garonne, avec les éditions Anacarsis aussi, qui sont maîtres d'œuvre de ce festival d'histoire à venir. C'est beaucoup, beaucoup de travail, en plus de son travail universitaire, mais en même temps, ça l'enrichit, j'imagine.
Oui, oui, pour nous, c'est vraiment l'idée que c'est aussi justement une des fonctions des universitaires aujourd'hui, de promouvoir la recherche. C'est une part entière de ce que nous nous devons de faire et c'est un immense plaisir. Préparer un festival comme celui-ci, c'est un énorme travail collectif et on a une formidable équipe organisatrice. Il faut vraiment les saluer. Mais c'est aussi un grand plaisir parce que pour arriver à monter une programmation comme celle-ci, il faut évidemment avoir des débats scientifiques, des débats entre historiens, et c'est aussi un vrai plaisir que de pouvoir monter cette programmation.
Eh bien, merci, on y reviendra à toute fin de cette émission, mais vous savez, le vendredi, nous avons toujours une rubrique finale avec le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, Rétro News, où on lit un grand article de presse des deux derniers siècles, et là, c'était à la une, c'est le nom de cette rubrique, donc nous plonge en pleine révolution de 1848, la fameuse promenade des cadavres.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le siècle. Paris, le 23 février 1848. Combien de fois n'avons-nous pas dit au ministère, à la majorité, que la véritable dignité, que le véritable honneur du gouvernement, c'était de comprendre les vœux, les besoins du pays, et d'y satisfaire par une prompte, par une loyale initiative, au lieu de se laisser acculer en prolongeant une résistance obstinée à l'alternative également fatale d'une faiblesse ou d'une folie. La folie semblait avoir été poussée aussi loin qu'elle pouvait l'être. Le jour des réparations était-il venu ? On le croyait en sortant de la chambre, on le croyait quelques moments après dans la ville tout entière. Chacun se communiquait l'heureuse nouvelle du renvoi des ministres. Paris était illuminé, tranquille, confiant. Quoique le gouvernement eût eu l'extrême imprudence de ne pas faire annoncer d'une manière positive dans son journal du soir le changement de ministère, quoique la satisfaction promise fût incomplète autant qu'incertaine. Tout à coup, vers 10 heures du soir, on entend retentir sur les boulevards le cri « aux armes, nous sommes trahis, on égorge nos frères !» La foule se précipite dans tous les sens, les uns fuyant le danger, les autres courant au-devant et voulant connaître la cause de cette grande et soudaine émotion. Peu de temps après, des tombereaux remplis de cadavres passaient sur les boulevards, escortés par des hommes du peuple portant des torches et criant « Vengeance !» Ces cadavres étaient ceux de citoyens, de femmes et d'enfants qu'une décharge à bout portant venait d'étendre sur le pavé en face du ministère des Affaires étrangères. Des témoins oculaires nous ont déclaré avoir vu, avoir compté les corps inanimés de 40 de ces malheureux, parmi lesquels se trouvait, dit-on, un officier de la garde nationale. La terre était souillée de sang. Un grand nombre de blessés s'enfuyaient en poussant des cris. Un frère cherchait son frère, un père son fils. C'était un spectacle à navrer l'âme la plus insensible. Était-ce un malentendu ? Un malheur ? Était-ce un crime ? Ce n'est que demain que les faits pourront être éclaircis, que la vérité tout entière sera connue. Mais cette nuit, à l'heure où nous écrivons, Paris est dans les angoisses de la douleur, de l'anxiété et de la colère. Le peuple se croit trahi. Il relève les barricades dans les rues et cherche partout des armes. De temps en temps, nous entendons la fusillade retentir sans savoir pour quelle cause. Nul ne peut dire comment se passera la journée de demain si la plus éclatante satisfaction n'est pas donnée au peuple de Paris, si les mesures les plus promptes et les plus décisives ne sont prises pour que justice soit faite, pour que la liberté, les droits et l'honneur de la France soient confiés à des mains fermes et sûres, dignes de conserver ce précieux dépôt. Que la garde nationale soit demain tout entière sous les armes. Qu'elle reste unie, qu'elle se montre ferme autant qu'elle a été modérée, qu'elle continue de veiller sur une situation pleine de périls et d'incertitudes. Grâce à son heureux accord avec la population, les malheurs vers lesquels nous a précipité le plus aveugle endurcissement pourront être prévenus.
Voilà pour cette promenade des cadavres lue par Elsa Dupuis dans une réalisation de Séverine Cassard. Vous pouvez bien entendu la retrouver sur notre site, mais également sur le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France. Il nous reste peu de temps, mais pour donner deux ou trois conseils pour ceux qui seraient dans la région toulousaine et qui pourraient rejoindre ce festival, Claire-Jules de la Rivière, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant dans ce festival d'histoire à venir? Évidemment, en ne préjugeant pas de ceux que vous ne citerez pas, parce que nous n'avons pas le temps.
Ça va être difficile de choisir, mais je vous encouragerais à aller à la Cinémathèque pour voir les différentes rencontres autour de mai 68, avec en particulier Ludivine Bantigny et Michel Zancarini-Fournel. Demain à 17h, James Scott, le grand politiste américain James Scott, sera présent avec nous. Et demain soir, Sophie Rabault présentera une belle conférence chantée avec la cantatrice Marie Seleskovitch.
Ouais, Anaïs Kien.
Alors, moi seulement aujourd'hui, de la colonisation des savoirs à la brevetisation du vivant, c'est un atelier avec Sébastien Marcel, Samir Boumediene, Marie-Christine Etelin et Frédéric Robert, et peut-être aussi une belle conférence de François-Xavier Fauvel, Éloge des retrouvailles, ce que signifie la rencontre des peuples.
Oui, il y aura aussi archéologie et patrimoine, que fouille-t-on? Pourquoi fouille-t-on? Pour qui fouille-t-on? C'est cet après-midi à 17h, mais dimanche, Patrick Boucheron sera là pour une conférence à 15h30, donc un énorme programme pour...
C'est un atelier d'autodéfense contre les images, si je me souviens bien.
Je ne sais plus très bien, voilà. Et donc, beaucoup de conférences, beaucoup de discussions, beaucoup de débats ici à Toulouse, à l'occasion de ce deuxième festival d'histoire à venir sur le thème humain, non humain. Il nous fallait annoncer également qu'un nouveau prix de livre d'histoire était lancé. Il s'agissait du prix Château de Versailles du livre d'histoire, et celui qui a été récompensé donc cette semaine, il s'agit d'Hervé Levers pour sa double biographie donc de Lucile et Camille Desmoulins. Donc c'est lui qui a remporté le premier prix du festival du livre d'histoire du Château de Versailles. Et puis il faut annoncer aussi que l'histoire continuera ce week-end sur France Culture avec, comme chaque samedi à 10h, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, au Moyen-Âge, rumeurs et fausses nouvelles avec Claude Gauvard. Merci à toutes et merci à tous donc pour cette émission en direct de Toulouse, et merci en particulier à France Bleu Occitanie à Toulouse et à Patrice Lecomte qui a été notre technicien ici. Cette émission a été préparée comme d'habitude par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Thomas Duterre était à la réalisation. Et la semaine prochaine, dans la Fabrique de l'Histoire, nous traiterons des ports, des espaces portuaires, enfin en tout cas du rapport de l'homme à la mer à travers les villes qui sont en bord de mer. C'est le thème de la Fabrique de l'Histoire la semaine prochaine.